Jésus est à Jérusalem pour une des fêtes juives et il enseigne dans la synagogue. Il se donne comme exemple de consécration totale à Dieu. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres, sans un brin d'intérêt personnel dans la façon dont il mène sa vie. Alors bien sûr, il est la mauvaise conscience de tous ceux qui se donnent la peine de l'écouter. La foule dont l'animosité est grandissante et les religieux qui ont décidé de le mettre à mort. Par exemple, la pensée que Jésus est un personnage mythique existe encore, mais à examiner ce qui a été dit, écrit de lui, aucun homme, fût-il un génie, aurait pu concevoir un tel enseignement qui est à la fois voilé et captivant et un modèle de vertu tous azimuts. Je continue le chapitre 7. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Versets 18 et 19. Si Jésus n'avait que fait part de ses propres réflexions, recherches et conclusions, même s'il avait été un génie, il aurait servi sa propre personne. Mais tel n'était pas le cas, puisqu'il ne désirait que faire la volonté du Père, le révéler et le servir. La raison de la création de l'homme était d'être comme Jésus, c'est-à-dire une dévotion totale à Dieu. Les auditeurs se vantaient de respecter la loi de Moïse. Ils en suivaient certes les rites, mais c'était une religion pour se donner bonne conscience. La loi a véritablement pour but de me révéler que je suis incapable de la suivre et ainsi de me conduire au Sauveur, comme le dit l'apôtre Paul que je cite. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Fin de citation. Les chefs religieux et certains de ceux qui écoutaient Jésus étaient remplis de haine à son égard. Je continue le texte. « Tu as un démon en toi !» lui cria la foule. « Qu'est-ce qui veut te tuer ?» Jésus reprit la parole et leur dit, « Il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez. Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Or cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncit un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Versets 20 à 24. Au lieu de reconnaître leur tort et de se repentir, voilà que les auditeurs l'insultent et mentent effrontément en niant qu'ils veulent l'assassiner. Jésus avait dit à ses demi-frères que le monde le haïssait parce que celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Fin d'une citation. C'était la guérison du paralytique au bord de la piscine de Bethesda un jour de sabbat qui avait déclenché une controverse farouche. Or les Israélites pratiquait la circoncision 8 jours après la naissance d'un garçon, quel que soit le jour de la semaine, même un sabbat. Donc, raisonne Jésus, pourquoi vous irritez-vous contre moi si je fais aussi une guérison ce jour-là? Leur problème était qu'ils suivaient les Écritures d'une façon très nonchalante, attachant surtout de l'importance aux détails rituels. Jésus les exhorte à juger selon la justice, c'est-à-dire à ne pas faire une lecture superficielle de la loi et des paroles du Christ, le représentant de Dieu. C'est un appel à se repentir en changeant d'attitude à son égard. Je continue. En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or le voilà qui parle librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que par hasard nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Christ? Pourtant lui, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Versets 25 à 27. Comme il y avait un contrat contre Jésus, il était étonnant de le voir enseigner en toute liberté. Les petites gens en sont pour leurs frais et dans la plus grande confusion à son sujet. Ils voulaient savoir si oui ou non il était le Messie, si c'est un imposteur qu'on l'arrête, sinon qu'on le reconnaisse comme tel. Je continue. Alors Jésus intervint d'une voix forte et on l'entendit dans toute la cour du temple. « Vraiment, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Sachez-le, je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est celui qui est véridique qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter. Et pourtant, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Versets 28 à 30. Jésus répond à ceux qui croyaient savoir qu'il n'était qu'un n'importe qui venant simplement de la bourgade de Nazareth. Il répète donc à qui veut l'entendre qu'il vient du Père qu'il a envoyé et que si ses auditeurs ne le croient pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le reproche est cinglant et déclenche la fureur, mais de façon surnaturelle, ses ennemis sont incapables de le saisir parce que ce n'est pas encore son heure. Je continue. Cependant, beaucoup de gens du peuple crurent en lui. Quand le Christ viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux que n'en a déjà fait cet homme-là? Ce qui se murmurait aussi dans la foule au sujet de Jésus parvint aux oreilles des pharisiens. Alors les chefs des prêtres et des pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Versets 31 à 32. Ce sont les miracles qui en convainquent quelques-uns, mais c'est très superficiel. Cependant, avec tout ça, le pouvoir en place des religieux s'effrite de plus en plus et ça, c'est inacceptable. Il faut réagir. En tant que gardien des traditions et de l'immobilisme étatique, il sonne la charge. Je continue. Jésus déclara, « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé, et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Sur quoi ses auditeurs se demandèrent entre eux, « Où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas ?» Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs? Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-Juifs? Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez aller là où je serai » Versets 33-36. Jésus continue à enseigner comme si de rien n'était, mais aussi parce que les Israélites disposaient de peu de temps pour décider si oui ou non, en tant que nation, ils allaient accepter Jésus en tant que Messie. Ces paroles « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas » est une prophétie à l'encontre des Juifs qui continueront indéfiniment à espérer en leur Messie. Aujourd'hui encore, les descendants d'Abraham, ayant choisi de rejeter Jésus, attendent toujours, mais en vain. Cette fois-ci encore, les paroles de Jésus étaient énigmatiques. Ses auditeurs continuent à raisonner en termes matériels. Ils n'ont toujours rien compris concernant l'origine divine du Christ. Cependant, leur questionnement est prophétique parce que l'Église s'étendra bien dans le monde entier parmi les Juifs et les païens. Je continue. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lançant à pleine voix, il dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Versets 37 à 39. Jésus se tient devant la foule, ce qui contraste avec la position habituelle des rabbins qui étaient assis pendant qu'ils enseignaient. Il offre le salut par la foi à ceux qui ont soif de Dieu et qui viennent à lui. L'eau vive qu'il offre représente le don de l'Esprit qui allait être fait lors de la Pentecôte une fois que le Christ serait ressuscité et retourné dans sa gloire. C'est alors qu'il enverra le Saint-Esprit qui apparaîtra sous la forme de langue de feu sur la tête des disciples. Ce fut le début de l'Église et la garantie que Jésus était bel et bien retourné dans la gloire céleste d'où il était venu. Je continue. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu !» D'autres affirmaient « C'est le Christ !» Mais, objectaient certains, « Le Christ pourrait-il venir de la Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Ainsi le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Versets 40 à 43. La foule continue à discuter de l'identité de Jésus. Certains semblent avoir une opinion favorable de lui, mais la plupart, particulièrement obtus, le rejetait en bloc sous prétexte qu'il venait de la Galilée et non pas de la Judée où se trouvait Jérusalem. D'après plusieurs textes de l'Ancien Testament, le Messie devait naître à Bethléem de la postérité de David, ce qui était bien le cas de Jésus qui naquit dans une misérable étable. Mais selon toute apparence, personne n'essaya de chercher à connaître ses véritables origines terrestres. La foule ignorante était ballottée par l'impulsion des sentiments du moment. Je continue. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme !» Versets 44 à 46. Les religieux devaient agir avec prudence afin d'éviter tout débordement car les légionnaires romains étaient prêts à toute éventualité pour une intervention musclée. Même ceux qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus revinrent bredouilles. Les gardes du temple avaient pressenti que cet homme était au minimum quelqu'un des plus remarquables, au moins un prophète et peut-être plus que cela. Les évangiles mentionnent souvent que Jésus était un orateur particulièrement impressionnant, hors pair, ce qui n'est guère surprenant puisqu'il est Dieu fait homme. Je continue. « Quoi ? Répliquèrent les pharisiens. Vous aussi, vous y êtes laissé prendre ? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. » Versets 47 à 49. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient trop instruits pour être séduits par Jésus, qu'ils qualifient d'imposteur. En fait, ils étaient jaloux de sa très grande popularité. Enflés d'orgueil, ils avaient une bien piètre opinion du bas peuple. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ?» Versets 50 à 51. En effet, la loi mosaïque stipulait que toute personne accusée d'avoir commis un crime ne pouvait être condamnée avant qu'on l'entende. Nicodème ne voulait pas que la Cour suprême juive rende un faux jugement. En outre, lui, personnellement, croyait que Jésus venait de Dieu, mais se sentant coincé entre le marteau et l'enclume, il ne savait pas trop que faire. Il ne voulait pas causer d'esclandre, alors il a simplement voulu qu'on respecte les règles judiciaires de la loi. Je continue. « Es-tu, toi aussi, de la Galilée ?» lui répondirent-ils. « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Là-dessus, chacun rentra chez soi. Versets 52 à 53. Nul n'a apparemment invité le Seigneur chez lui. Autant qu'on sache, Jésus n'a jamais passé une seule nuit à l'intérieur des murs de Jérusalem. En dépit du fait que Nicodème était pharisien et un docteur de la loi, bien en vue au sein de la nation, il fut maltraité par ses collègues. Les préjugés et la haine que ceux-ci nourrissaient à l'égard de Jésus étaient déjà assez forts pour faire taire la voix de leur raison. Ces citadins de Jérusalem n'avaient que mépris pour les campagnards, qu'ils avaient déjà auparavant qualifiés de maudits. Les morceaux du puzzle géant que Dieu du haut des cieux est en train de constituer ici-bas se mettent en place rapidement. Suite à la guérison du paralytique, une locumène depuis 38 ans, l'enfer s'est déchaîné. Jésus est rejeté par sa propre famille. Les accusations fusent et maintenant les autorités parlent ouvertement d'une mise à mort. Pourtant, Jésus ne recule pas et continue la tâche que le Père lui a confiée. Il est toujours son porte-parole et proclame qu'il est lui la vérité, l'eau vive, qui est célébrée par la fête des cabanes. C'est du Christ que viendra l'Esprit qui accompagnera tous ceux qui croiront en lui. La foule est divisée. La faune religieuse renifle le sang. Seul Nicodème, parmi les pharisiens, a osé prendre sa défense, voulant qu'on respecte la loi. Mais c'est déjà trop tard, les dés sont jetés, le Christ doit mourir. Nous voici arrivés au chapitre 8 de l'évangile de Jean, qui commence avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Comme de coutume, Jésus fait suivre cette histoire d'un enseignement. Il va se déclarer comme étant la lumière du monde. Je commence à lire. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Verset 1-2. La veille, les membres du grand conseil de la nation juive, s'étant concertés, avaient décidé une fois de plus que Jésus n'était qu'un imposteur qui devait mourir. Seul Nicodème, lui-même, un pharisien et docteur de la loi, avait pris sa défense, mais il s'était fait chahuter. Puis tout le monde, en bon père de famille, était rentré chez lui. Jésus quitta Jérusalem et alla passer la nuit à prier sur le mont des Oliviers. Le lendemain, il revint en ville et alla au temple où il continua son enseignement. La scène se déroule dans le parvis réservé aux femmes. Je continue. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. » Versets 3 et 4. Quelle aubaine pour les religieux. Ils ont, croient-ils, trouvé un moyen de coincer Jésus. Cette femme était sans aucun doute coupable. La loi adressait ce genre de situation. Je cite le passage de l'Ancien Testament. « Quand un homme commet adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. » Fin de citation. L'Éternel ne badinait pas avec l'adultère et sa justice était expéditive. Cependant, il y a un hiatus de taille dans l'incident décrit. En effet, selon la loi, les deux coupables devaient comparaître en justice. Or, on a beau chercher de tous les côtés, seule la femme, telle un sac à patates, est livrée à Jésus pour qu'il prononce le jugement. Visiblement, les religieux se moquaient bien de la justice. Ce qui leur importait, c'était de pouvoir accuser Jésus de quelque chose devant la foule, afin que celle-ci se retourne contre lui. Je continue le texte. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Versets 5 à 6. Pour qu'une condamnation aussi grave que la peine de mort soit prononcée, il fallait, comme je l'ai dit, que les deux personnes coupables soient prises sur le fait. Politiquement, Jésus n'avait pas le droit de prononcer une condamnation à mort parce que cette prérogative appartenait seulement à l'occupant romain. Mais s'il laissait passer, il se mettait en porte-à-faux vis-à-vis de la loi de Moïse, dont il avait expressément dit, et je le cite, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » Fin de citation. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.